Oui, salut Daniel, eh ben, écoute, je m'appelle Lagda, je suis chauffeur routier et je voudrais dire une réclamation de tirer mon chapeau à tous les Guadeloupéens avec tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire de la grève. C'est ça que j'appelle de la grève, c'est ça faire souffrir le gouvernement. Pas comme des bleubites ici en France, faire une journée de grève, hein, et puis après rentrer à la maison et s'imaginer qu'après que du jour au lendemain, ça y est, on obtient tout. Ça, c'est ce que j'appelle des gens qui ont des couilles au cul. Excuse-moi de l'expression Daniel, mais je suis obligé de le dire. Voilà.
Oui, bonjour, Jacques de Lyon. Est-ce que vous pourriez nous faire réécouter ce chef-d'œuvre magnifique que j'ai entendu ce matin sur France Inter, ce chef-d'œuvre magnifique sculpté, chantourné par Madame Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, dans du chêne bien épais, dont est une des spécialistes, disant que, à propos de ces lycéens ou collégiens qui ont été plus ou moins matraqués à la gare de Montparnasse, qu'il s'agissait probablement, selon ses sources, qu'il s'agissait du contact d'une matraque avec un estomac. C'est beau, ça, c'est magnifique. Voilà, à bientôt.
Luc de Paris. Ce matin, j'ai entendu à la radio Michel Alliot-Marie et j'en ai pas cru mes oreilles. Donc voilà, j'ai fait un petit remix que je vous livre comme ça par le téléphone, un petit remix des propos de Michel Alliot-Marie ce matin.
Avant de dire qu'ils ont été frappés, moi je voudrais bien savoir ce qu'il en est réellement. Un contact, il s'agit de bousculade. Un contact d'une matraque, il s'agit de bousculade. D'une matraque avec l'estomac d'un certain nombre de jeunes et notamment de très jeunes. Il n'y a pas eu de problème particulier. Un contact, il s'agit de bousculade. Un contact d'une matraque avec l'estomac d'un certain nombre de jeunes et notamment de très jeunes.
Voilà, il s'est rien passé, quoi. Pas de problème. À bientôt, salut.
Bonjour Daniel, ici c'est Brigitte qui appelle de Lorraine. Bah écoute, il va falloir leur donner du phosphore à tes petits camarades de l'info à Inter, parce que au cas où ils seraient passés à côté du scoop, et apparemment c'est le cas, nous étions 6500 au Zénith dimanche après-midi pour fêter le lancement de la campagne du Front de Gauche, au cours duquel quand même, info modeste mais info tout de même, Christian Piquet nous a rejoints. C'est quand même pas banal ça. Eh ben, toute la presse, sauf Luma bien sûr, a oublié de parler de nous. Mais pendant ce temps-là, on nous a raconté la baignade de Nico et Carla dans la baie de Copacabana. Ils nous ont pas donné la couleur des maillots de bain, mais comme les images de la télé étaient parlantes, on n'en a pas loupé une goutte. Allez, ciao, portez-vous bien.
Salut Daniel, c'est Fred de Bordeaux et merci pour tes émissions. Je voulais vous faire connaître la dernière provocation de Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale. Une petite phrase qui en dit bien long. Alors voilà la scène. On est à Bordeaux, lundi 9 mars, Cap Science. Xavier Darcos intervient dans le cadre de la signature d'une convention pour la promotion de l'égalité dans le système éducatif. Il y a là aussi une délégation de parents d'élèves, hostiles aux réformes en cours dans le primaire, qui demande à être reçue. Et c'est alors que, les apercevant, le ministre s'écrie « Oh, c'est encore ce peuple braillard et gavé de tout !» Peuple braillard et gavé de tout. Alors chacun appréciera le décalage abyssal entre le thème de l'intervention de Darcos, consacré à l'égalité, et les propos qu'il tient en off. Monsieur le ministre adopte ici la posture de l'aristocrate méprisant la plèbe, et totalement coupé du quotidien de ses contemporains qu'il croit gavé de tout en ces temps de crise. Alors autant de mépris de classe affiché sans vergogne, eh bien ça vous scie les jambes. Allez, le peuple braillard vous salue bien.
Vive Daniel Mermet, vive Didier Porte, vive Stéphane Guillon. Je suis capable d'aller faire la grève de la faim à la maison de la radio, moi, si on vous vire. Hein. À bas la victimisation et vive l'humour et la révolte. Chantal de Paris, à bientôt.
Ouais, eh ben, nous, à la base, si j'y suis, nous trouvons que Stéphane Guillon est vulgaire, bête et méchant. De même que Didier Porte. Quant à Jean-Paul Cluzel, le président de Radio France, nous détestons sa façon d'étaler sa vie privée de façon indécente. Voilà. On l'a dit, hein ? Voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis ça, mais il faut que vous approchiez un peu du transistor pour que ça reste entre nous. c'est dans Le Point. Vous savez, le Point, le magazine Le Point, qui s'intéresse au cas de Stéphane Guillon, comme beaucoup de monde actuellement, mais qui s'intéresse aussi au cas de là-bas si j'y suis, et plus précisément au cas de votre serviteur. Selon Le Point, Mermet est dans le collimateur. Approchez-vous, parce qu'il faut que ça reste entre nous. En fait, dit Le Point, l'Élysée s'émeut surtout du côté sectaire de la rédaction de France Inter. Jean-Paul Cluzel a tenté de rééquilibrer la rédaction en introduisant davantage d'économie que de social, le social étant la pente naturelle de la station. Ce n'est pas assez, récrimine-t-on au château. Vous sachez que le château, c'est l'Élysée. Ce n'est pas assez, récrimine-t-on au château, où l'on pointe également du doigt l'émission de Daniel Mermet l'après-midi. Heureusement, continue-t-on, que Nicolas Sarkozy ne l'écoute pas. On en entendrait parler pendant un moment, confie-t-on dans les allées du pouvoir, où l'on considère que le contribuable qui paie sa redevance a le droit à une information équilibrée. Fin de citation. Voilà. Pourquoi je dis ça en commençant, mais cette deuxième partie de mon intervention doit rester entre nous. De même, ce qui va faire l'objet de cette émission d'aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça. Et on va se retrouver dans un instant avec Serge Halimi, avec Anne-Cécile Robert, avec Noël Burgi, avec Jacques Sapir, avec Maurice Lemoine, avec Laurent Bonelli, autour du micro de Guy Ventil sur le numéro du Monde Diplomatique de ce mois de mars 2009. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, mais pour combien de temps ?
Salut Daniel, Agnès et toute l'équipe de là-bas. Ici, c'est le repère de Bourg-en-Bresse. Donc, nous nous réunirons de nouveau ce jeudi 12 mars à 20h au bar-resto Le Petit Milieu, rue du Pelu, à Bourg-en-Bresse. Alors, bienvenue aux AMG, aux nouveaux AMG qui nous rejoindront pour la première fois, curieux et avides d'informations. Et surtout, qui souhaitent faire l'expérience de la fraternité. Alors, quel thème cette fois ? Le capitalisme. Alors les partis principaux, les tenants de l'économie veulent l'aménager, le responsabiliser, le moraliser, le rhabiller, lui mettre une perruque, mais surtout ne rien changer. D'autres, pas ou peu médiatisés, souhaitent simplement et radicalement le remplacer. Mais par quoi ? Comment ? Alors cette fois nous recevrons des membres du NPA et d'autre part du parti des alternatifs qui chacun nous feront part de leurs propositions, de leurs idées, autour desquelles nous ne manquerons pas de débattre. Alors à jeudi.
Salut, c'est Olivier de La Réunion, là. Je sors tout juste de la manif, il est 16h ici à La Réunion, et je tiens à dire que les CRS, les escadrons de garde mobile, ont joué la provoque et ont déclenché les hostilités. C'est eux qui ont balancé une grenade assourdissante et des gaz lacrymo. Donc la foule a répliquer en brûlant des poubelles, en brûlant des branches coco, des choses comme ça. C'est inadmissible là de vouloir casser un mouvement social en envoyant la troupe, mais c'est pas nouveau. En plus de ça, là je rentre un instant, je regarde les informations, bien sûr France 2, TF1, il n'y a rien du tout. Comme par hasard, on nous a fait le coup en 2003, parce que je te rappelle, tu t'extasiais devant les 50 000 personnes aux Antilles. Nous, pendant 2003, on a été 50 000 pendant 2 mois dans la rue. Et il n'y a pas eu, il y a eu si, il y a eu 10 secondes au journal de France 2 à l'époque. Voilà. En tout cas, les flics à La Réunion, c'est à Gerbet, il y en a ras-le-bol. Et je sens que ça va chier, mais ceux qui ont commencé à foutre la merde. Allez, bye.
On retrouve toute l'équipe du Monde Diplomatique pour ce numéro de mars. Avec pour commencer vous, Serge Halimi, et votre éditorial, où vous prenez, je ne sais pas si c'est les accents gaullistes ou gaulliens.
La défense de l'indépendance nationale est une cause qui déborde les rangs gaullistes, assez épars en ce moment, en particulier au sein de la droite française.
Oui, puisque je vous coupe 2 secondes, mais vous recoupez un peu les positions d'Alain Juppé et de M. de Villepin. Autre article dans le numéro du mois de mars du Monde Diplomatique, c'est le vôtre, Anne-Cécile Robert, et la crise sociale a rattrapé le Parlement européen.
Là, en l'occurrence, il y a ces arrêts de la Cour de Luxembourg qui sont absolument scandaleux, puisqu'il y a 4 arrêts coup sur coup dans lesquels la Cour de justice fait prévaloir les droits des entreprises sur ceux des salariés.
Avec vous, Noël Burgi, salarié acrobate pour Travail sans filet.
Aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les personnes vulnérables, les pauvres, qui sont touchées. Une fraction de plus en plus grande de la société est touchée.
Quand on cherche, on trouve. C'est le titre de votre article, Laurent Bonelli, dans ce numéro du mois de mars du Monde Diplomatique, au sujet, bien sûr, de la mobilisation intense qui, depuis des semaines, s'active dans les universités, dans tout l'enseignement et de la recherche français, suite à l'agitation de Valérie Pécresse, qui apparemment aussi commence à avoir du plomb dans l'aile. Maurice Lemoine, je vous retrouve dans ce numéro du Monde Diplomatique avec un article de Philippe Lemery, et vous avez fait un encadré, qui vont dans le même sens, c'est-à-dire des nouvelles guerres qu'on nous prépare.
On se rend compte qu'il y a une multiplication en France, mais pas uniquement en France d'ailleurs, d'exercices militaires en zone urbaine.
Quelque chose à ajouter ? Ça me paraît très bien. Un bleu, un jaune. Un bleu, un jaune, c'est une expression qui date de l'époque où c'était avec des bandes.
Avec les bandes, mais oui, c'est là.
Et la bande d'amorce c'était bleu, ouais, et la bande de fin était jaune, et ça voulait dire bon, bah c'est bon. Il n'y a pas de collant à faire dedans, ça passe, avec le joueur sur la séance un tout petit peu.
Et voilà, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
On retrouve toute l'équipe du Monde Diplomatique pour ce numéro de mars, avec pour commencer vous, Serge Halimi, et votre éditorial, où vous prenez, je ne sais pas si c'est des accents gaullistes ou gaulliens, mais en tout cas c'est une défense de l'indépendance française de l'OTAN à l'encontre des décisions prises par notre président Sarkozy qui veut regagner le giron de l'OTAN pour un nouveau siècle à nouveau.
Voilà, enfin la défense de l'indépendance nationale est une cause qui déborde les rangs gaullistes assez épars en ce moment, en particulier au sein de la droite française.
Oui, puisque je vous coupe deux secondes, mais vous recoupez un peu les positions d'Alain Juppé et de M. de Villepin.
Je pense que je vais un petit peu plus loin qu'Alain Juppé, qui a une position critique, mais sur un mode très, très modéré, très respectueux. Moi, même si je reste respectueux, je pense être un peu moins modéré qu'Alain Juppé. La question qui se pose et qui va se poser à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'OTAN, c'est à quoi sert cette organisation ? À quoi sert cette organisation au moment précis où la France s'apprête à réintégrer sa structure de commandement ? Il faut rappeler que l'OTAN a été créée en 1949 pour défendre l'Europe de l'Ouest, essentiellement le Royaume-Uni, l'Italie, la France, le Benelux, la Norvège, contre une éventuelle attaque soviétique, attaque de l'Union soviétique. L'année précédente, il y avait eu le coup de Prague, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les communistes en Tchécoslovaquie, et un certain nombre d'Occidentaux soupçonnaient que l'Union soviétique avait l'intention d'envoyer ses troupes contre l'Europe occidentale, ce qui vraisemblablement n'a jamais été le cas. En tout cas, ça a été une occasion pour les États-Unis de souder autour d'eux un certain nombre de pays occidentaux. La Grèce, la Turquie, l'Allemagne vont rejoindre l'OTAN plus tard, mais ils ne sont pas membres signataires quand le traité est signé. Alors, la question qui se pose, évidemment, quand l'URSS disparaît en 1991 et quand le pacte de Varsovie, qui a été créé en 1955 pour, explique les soviétiques et leurs alliés, répondre au traité de l'OTAN, quand le pacte de Varsovie est dissous, c'est de savoir pourquoi l'OTAN devrait continuer à exister. Je rappelle qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une architecture de traités militaires qui ont été construits autour des États-Unis, dans diverses zones géographiques. L'OTAN, c'est l'Europe. Vous avez l'OTAS en Asie du Sud-Est. Vous avez le CINTO autour de l'Iran. Et d'autres architectures militaires ont été dissoutes. L'OTAS n'existe plus, le CINTO n'existe plus, mais l'OTAN existe toujours. Pourquoi ? Et on se pose d'autant plus la question que, En 1999, contrairement aux engagements qui avaient été pris par les Occidentaux au moment de la réunification allemande, vous allez avoir trois pays anciennement membres du pacte de Varsovie qui vont adhérer à l'OTAN. Traité qui, au départ, était conçu pour résister à une attaque soviétique, alors qu'il n'y a plus d'Union soviétique, qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. Bon, et ces trois pays, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Et au moment où ces pays adhèrent, l'OTAN va intervenir, ça va être sa première vraie intervention militaire. Elle va intervenir contre qui ? Contre la Yougoslavie. C'est-à-dire pour un objet qui n'est pas prévu dans les traités. Puisque les traités prévoient que l'OTAN va intervenir, peut intervenir, s'il y a une attaque contre un des États membres. La Yougoslavie n'est pas un État membre de l'OTAN. Et la Yougoslavie n'est pas attaquée, puisqu'on peut estimer que même si le Kosovo est attaqué, le Kosovo fait partie de la Yougoslavie. Donc c'est contrairement au traité, et encore plus contrairement au traité, dans la mesure où cette intervention de l'OTAN n'est pas justifiée par une décision des Nations Unies. Or, le traité de l'OTAN prévoyait que ce serait une réaction militaire qui aurait en quelque sorte l'aval juridique des Nations Unies. Donc il n'y a pas d'aval juridique des Nations Unies. Il y a un traité qui a été construit pour résister à une attaque soviétique. L'Union soviétique n'existe plus. Et la première intervention de l'OTAN se fait contrairement à tout ce que ces textes originaux prévoient. On en était là jusqu'au moment où l'OTAN s'est engagée dans un deuxième théâtre d'opération, qui est l'Afghanistan. Là, on n'est même plus sur le champ de bataille européen, si j'ose dire. On est très loin de là. L'OTAN devient en quelque sorte l'organisation militaire qui défend les intérêts géostratégiques des États-Unis et des Occidentaux. Et c'est au moment où on a cette extension quand même assez phénoménale du rôle de l'organisation par rapport à ce qui était prévu au départ que la France décide de rejoindre son commandement intégré. Il y a donc un vrai problème. Et à mon sens, on ne peut comprendre cette décision que si on a à l'esprit le fait que dans la droite française, il y a eu une fraction qui a toujours été très atlantiste, très pro-américaine, et que Nicolas Sarkozy est en quelque sorte l'émanation de cette fraction qui n'a jamais accepté le gaullisme, qui n'a jamais eu une attirance particulière pour l'indépendance nationale, qui a toujours souhaité jouer le rôle de petit soldat des Occidentaux. Et donc pour lui, il s'agit d'un symbole d'alignement sur les États-Unis, sur les intérêts des Occidentaux, et d'un symbole aussi de rupture avec cette impardonnable exception française qu'a incarnée pendant très longtemps, dans le sillage du général de Gaulle, la France à l'intérieur même de ce monde occidental.
La base est suite. Femme,
le pas, si je suis, la base est suite.
Autre article dans le numéro du mois de mars du Monde diplomatique, c'est le vôtre, Anne-Cécile Robert, et la crise sociale a rattrapé le Parlement européen. Vous revenez sur des décisions prises par la Cour de justice des communautés européennes, une institution dont nous autres citoyens européens entendons peu parler, et qui vont toutes dans le sens d'un primat de l'économique sur le social.
Oui, je suis allée enquêter au Parlement européen, une instance qui est la seule instance qu'on élit, la seule instance européenne qu'on élit, et qui est en même temps l'institution la plus faible. Parce que les institutions fortes, c'est la Cour de justice, vous venez de la mentionner, et puis la Commission européenne. D'ailleurs, il y avait un député qui me disait « je rédige un rapport de temps en temps parce que sinon je m'ennuie ». Donc effectivement, ils n'ont pas forcément grand-chose à faire. Cela dit, ce qui est intéressant avec le Parlement européen, bon, c'est d'une part qu'on l'élit, et c'est une institution qui monte en puissance et qui souhaite s'affirmer politiquement et représenter, donner un petit peu une voix au peuple. Et là, en l'occurrence, il y a ces arrêts de la Cour de Luxembourg qui sont absolument scandaleux, puisque il y a 4 arrêts coup sur coup dans lesquels la Cour de justice fait prévaloir les droits des entreprises sur ceux des salariés.
Dans le cas de lutte syndicale contre des délocalisations en particulier.
Voilà, tout à fait. Notamment en Scandinavie et en Allemagne, vous aviez des entreprises qui voulaient délocaliser, qui faisaient jouer le dumping social. Donc il y a des mouvements de grève. Et le conflit a été porté devant la Cour de Luxembourg qui a dit que les syndicats ne devaient pas entraver la liberté d'établissement des entreprises dans le marché commun. Et donc, il fallait que leurs actions soient proportionnées. Donc, elle s'est permis de juger la pertinence de l'activité syndicale. Et donc, ces arrêts sont proprement scandaleux. Ils ont d'abord été passés sous silence. Et puis, il y a quelques députés européens, parce que vous savez, une des choses qui frappe quand on va au Parlement européen, c'est que c'est un univers un peu feutré, comme ça, un peu loin des réalités. Donc les arrêts de la Cour de justice leur avaient un peu échappé, mais il y a quand même quelques députés, hurlu-berlu, qui ont empêté pendant des mois pour obtenir un débat au Parlement européen là-dessus, et qui s'inquiétaient notamment du discrédit que ça pouvait jeter sur la construction européenne elle-même. Alors voilà, j'en ai rencontré plusieurs, j'ai assisté à des discussions, à des débats, et ce qui était intéressant, c'est de voir déjà comment fonctionne le Parlement européen, notamment l'arrogance de la Commission européenne vis-à-vis des députés. Les députés ont demandé à la Commission européenne de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre entre les droits sociaux et les droits économiques. Elle les a carrément envoyés balader en disant qu'elle ne voyait pas l'opportunité de prendre de telles décisions. Et aussi, on voit, au travers de cette enquête, l'avis du Parlement européen et l'attitude des députés européens. Et ce qui frappe, c'est que c'est un univers un petit peu à part des clivages politiques traditionnels. C'est-à-dire, on n'a pas véritablement un clivage droite-gauche au Parlement européen. Ce qui compte, c'est l'avancée de la construction européenne. Ce qui fait que vous avez souvent des alliances qu'on qualifierait de contre-nature dans les États nationaux entre des partis de droite, voire très à droite, et la social-démocratie européenne au nom de la défense de la construction européenne. Et là, dans le cas du débat sur les arrêts de la Cour de Luxembourg, on a vu tout un débat sur le point de savoir si il fallait pas réviser les traités européens. Parce que la Cour de Luxembourg, quand elle a donné raison aux entrepreneurs contre les syndicats, elle s'est appuyée sur les traités européens, qui effectivement, historiquement, construisent le marché commun. Les trois quarts du droit européen, c'est le libre-échange, la concurrence, etc. Donc la Cour de justice pouvait valablement se fonder sur les traités européens pour donner raison aux entrepreneurs. Et donc il y a un certain nombre de députés qui ont dit on aura beau adopter toutes les résolutions qu'on veut, demander toutes les directives qu'on veut, si on révise pas les traités, c'est comme si on jetait une pierre dans l'eau. Et là on voit que si les députés européens adoptent une résolution très ferme sur les principes, en fait c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'ils refusent de toucher au traité, ils refusent de demander aux États membres, à la Commission européenne, c'est-à-dire les organes qui ont le plus de pouvoir, de modifier les traités, et en particulier le traité de Lisbonne, qui n'est pas tout à fait adopté encore aujourd'hui.
Voilà, et vous insistez bien aussi sur le vide juridique qu'il y a par rapport aux grands principes de ces traités, pour l'application justement de ces mesures au coup par coup, et vous répétez à nouveau à quel point la politique néolibérale est inscrite dans les institutions européennes.
C'est dans le logiciel de la construction européenne. Historiquement, les États européens se sont alliés pour faire un marché commun. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à dépasser ce plus petit dénominateur commun qui est en train de devenir le plus grand dénominateur commun, et notamment sur la question des droits sociaux, mais aussi, Serge Halimi en parlait tout à l'heure, sur les questions de défense. Dès qu'on sort du champ de la concurrence ou du libre-échange, il n'y a plus consensus entre les États membres en matière de défense. Ils étaient divisés sur l'Irak, ils sont divisés par rapport à la géopolitique mondiale, etc. Donc la grande difficulté du projet européen, c'est de sortir de cette identification au néolibéralisme qui jette un peu le doute sur la pertinence du projet lui-même.
Et tout ça, vous le dites, est beaucoup cristallisé dans le traité de Lisbonne, justement.
Ben, le traité de Lisbonne, c'est un traité pour rien, je veux dire, il confirme toutes les évolutions de la construction européenne depuis 50 ans. Il confirme les choix néolibéraux, il confirme le rôle de l'OTAN, il confirme la primauté de l'économique sur le social, et il prévoit rien sur la crise financière. Donc pourtant on s'acharne à le mettre en œuvre, alors que certains députés disent bon, puisqu'il y a la crise, on pourrait suspendre la ratification de Lisbonne pour le réviser, tenir compte des événements, et à cette occasion essayer de rééquilibrer la construction européenne dans un sens plus social. Mais ça, il n'en est pas question. Les États membres restent focalisés sur ce qui les a unis historiquement et dont visiblement ils ne veulent pas sortir, sans doute parce que ça sert les intérêts de certains.
La cravate est une fausse piste, on préfère être à poil, devenir fou que de faire comme ils l'entendent. Un jour tout est foutu, demain y a de l'espoir.
parce que le mal n'est qu'un point de vue, parce que les samedis après-midi de shopping deviennent l'opium du peuple, parce que les lignes droites sont suspectes, parce qu'on devrait donner des cours de grammaire et de conjugaison aux syndicalistes. Oui, sans orateur la France n'est rien, parce qu'on veut laisser le monde sucer sans nous, parce que les encostumés chantent toujours la même chanson sous leur chemise, parce qu'on aime les oiseaux, les vaches et les chiens, parce qu'on rêve de soleil et de balade dans les rues de Barcelone, parce que trop souvent on ne comprend rien. La cravate est une fausse piste, on préfère être à poil, devenir fou que de faire comme ils l'entendent. Un jour tout est foutu, demain y'a de l'espoir. La cravate est une fausse piste, on préfère être à poil, devenir fou que de faire comme ils l'entendent. Un jour tout est foutu, demain y'a de l'espoir. Parce qu'on boit trop, parce qu'on fume trop, parce que ce que j'écris n'est pas ce que je suis, mais ce que je voudrais être, parce que ça ne suffit plus d'exister, parce qu'il faut taper ton nom sur Google, créer ton blog, devenir le Zola de ta maigre vie, parce que malgré tout on se marre, parce qu'un bulletin est une plume, un lobby, un canon, parce qu'on se fout des codes et des cadres. La cravate est une fausse piste, on préfère être à poil, devenir fou que de faire comme ils l'entendent. Un jour tout est foutu, demain y'a de l'espoir. La cravate est une fausse piste, on préfère être à poil, devenir fou que de faire comme ils l'entendent. Un jour tout est foutu, demain y'a de l'espoir.
Jacques Sapir, je vous retrouve à part un peu de l'équipe du Monde Diplomatique parce que vous avez des obligations. Au sujet de l'article que vous publiez dans ce numéro du mois de mars qui s'appelle « Le retour du protectionnisme et la fureur de ses ennemis », qui ouvre un dossier autour de ces questions-là, qui tire le bilan de la faillite d'un système, pour le dire rapidement.
Oui, absolument. Nous avons vécu depuis maintenant environ 25 ans, c'est-à-dire une génération, depuis 1983-1986, dans un système qui combinait en fait deux grandes idées. La première était la libéralisation de la finance, dont on nous a expliqué qu'une finance libéralisée rendrait l'investissement moins coûteux et donc permettrait de se rapprocher du plein emploi. Donc on a eu cette libéralisation de la finance qui nous a donné finalement des fruits très amers, et ceci était perceptible en réalité dès la fin des années 80, et qui s'est combiné avec une autre grande idée, qui était l'idée du libre-échange intégral, construit un petit peu comme un dogme, et on devait tendre vers une ouverture complète, avec cette idée qu'à travers le libre-échange, nous aurions une spécialisation de chaque économie sur ses points forts, et que nous aurions un développement du marché qui, là encore, nous tirerait vers le plein emploi. On se rend compte aujourd'hui que ces deux idées étaient profondément fausses. En fait, on le savait, si vous voulez, les économistes, y compris des gens qui ne sont pas en réalité des grands gauchistes, avaient montré que la libéralisation financière était extrêmement dangereuse. Il y a même un rapport récent du FMI qui montre que les pays les plus libéralisés en termes financiers ne sont pas ceux où la croissance a été la plus forte. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que même si on voit que ce système fondé sur ces idées du début des années 80, c'était historiquement la contre-révolution conservatrice des années Reagan, des années Thatcher, et je dirais en France des années Delors. Donc, ces idées sont issues en fait de la contre-révolution conservatrice du début des années 80. Elles arrivent d'une certaine manière à leur aboutissement logique dans cette crise. Et ce qui est très frappant, si on accepte de prendre un petit peu de recul, c'est que même si beaucoup de mes collègues économistes sont prêts aujourd'hui à contester des points d'application et de dire il faut un petit peu plus de réglementation ici, il faut un petit peu plus de surveillance là, il y a un espèce de blocage psychologique très profond quant à la remise en cause des idées fondatrices, c'est-à-dire l'idée que les marchés financiers pourraient être efficients, ils ne le sont pas, ou l'idée que le libre-échange serait aussi une condition d'efficience de l'économie, ce qu'il n'est pas. On s'aperçoit que pour les pays les plus pauvres, à l'exception de la Chine, la mondialisation ou la globalisation n'a pas apporté de progrès, mais au contraire des pertes. On ne peut absolument pas montrer, d'un point de vue statistique, que les pays les plus pauvres et profiter de notre appauvrissement à nous, pays riches. Et je pense que la formule qui décrit un petit peu la logique de la globalisation, c'est que l'appauvrissement des plus pauvres des pays développés enrichit les plus riches des pays en développement. Alors là, on a un véritable problème, et ce problème ne peut être abordé qu'à travers le protectionnisme. Et il faut être très clair, nous ne persuaderons pas les responsables d'un certain nombre de pays de converger vers les politiques sociales et écologiques que nous souhaitons si nous ne les y contraignons pas. Alors on va trouver que je suis un pessimiste, que je ne crois pas en la bonté de l'âme humaine. Je le dis tout de suite, non. Je suis un économiste, donc j'ai une vision pessimiste, en réalité, du comportement humain. C'est une caractéristique des économistes. Et je pense...
Parce qu'ils voient la course au profit.
Pas seulement, c'est parce qu'ils considèrent que nous, êtres humains, nous sommes mus par nos passions et par nos intérêts, beaucoup plus que par nos idéaux. Voilà. Alors, je pense aussi que les idées ont un rôle, mais c'est vrai que les passions, et parfois les passions peuvent être quelque chose de très négatif.
C'est des passions guerrières aussi.
Oui, mais il peut y avoir des passions guerrières. Les intérêts, il faut faire très attention. Et de ce point de vue-là, je pense que l'on pourrait d'autant mieux, par exemple, négocier avec certains pays d'Europe centrale et orientale, ou même avec les États-Unis en ce qui concerne, par exemple, les réglementations écologiques. De type, évidemment, accord de Kyoto, hein, qu'on leur dirait, bah, si vous ne voulez pas les respecter, on taxe vos produits. Je pense qu'on aurait pu convaincre les États-Unis de rentrer dans le protocole de Kyoto bien plus vite si on avait dit aux États-Unis, vous ne voulez pas prendre les charges que nos industriels prennent, en particulier dans l'acier, dans les industries chimiques. C'est les industries qui sont des grosses productrices de CO2. Bon, c'est votre droit. Nous n'avons pas l'envie et le pouvoir de débarquer chez vous, de vous envahir et de vous imposer nos lois. Et de toutes les manières, ça ne serait pas une bonne chose. Mais si vous ne voulez pas coopérer, alors nous taxerons vos produits à hauteur de ce que vous aurez coûté un effort dans ce sens. Donc vous avez le choix. Vous ne voulez pas être taxé, faites l'effort. Vous ne voulez pas faire l'effort, vous serez taxé. Bon. Et là, vous voulez, d'une certaine manière, vous réintroduisez un vrai argument de négociation. Même chose, je pense, avec les nouveaux entrants. Ces nouveaux entrants nous disent, vous n'êtes, vous, Européens occidentaux, que des socialistes. Nous, nous croyons au marché, nous ne voulons pas de politique sociale.
C'est ce qu'on entend en Pologne, par exemple.
Tout à fait, ce que vous pouvez entendre aussi en République tchèque, eh bien... S'ils veulent penser ça, c'est leur droit, si vous voulez. Et de ce côté-là, je ne pense pas que moi, Français, j'ai à imposer ma loi aux Polonais ou aux Tchèques. Mais inversement, je pense que les Polonais et les Tchèques n'ont pas à m'imposer leur loi. Donc, la meilleure réponse consiste à dire, puisque vous ne voulez pas ouvrir la discussion sur l'Europe sociale, nous taxerons vos produits à hauteur de ce que représentent les décalages entre les systèmes sociaux. Et si vous ne voulez pas être taxé, vous vous engagez à vous rapprocher d'un ordre de système social, et là, on peut tout à fait négocier avec vous, et là, on retrouve, je dirais, un vrai élément de négociation politique, et au lieu d'avoir un système où le libre-échange tire tout le monde vers le bas, nous avons un système qui permet de remonter à la fois dans le domaine social et à la fois dans le domaine écologique. Donc, il nous faut des protections tarifaires, des droits de douane ou des montants compensatoires monétaires, si vous voulez. Après, il y a beaucoup de...
Là, vous montrez dans l'article à quel point il y a des instruments différents, que le protectionnisme peut prendre plein de formes différentes, que ça soit par des aides ou au contraire par des sanctions.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que les instruments du protectionnisme sont extrêmement multiples, et c'est une bonne chose, pour justement arriver à ce qui doit être l'objectif, construire des systèmes sociaux de plus en plus justes, construire des systèmes de production dont l'impact écologique soit de plus en plus réduit et de plus en plus soutenable, si vous voulez.
On y va ? On retrouve toute l'équipe du Monde Diplomatique pour ce numéro de mars.
La vache est ici.
On a évoqué avec Jacques Sapir et son article sur le protectionnisme les conséquences macroéconomiques de la crise et de l'économie mondialisée.
Avec vous, Noël Burgi, on revient sur les conséquences sociales pour les salariés de cette même ordre du monde, et en particulier la gestion des individus à travers des politiques de management très très agressives, là aussi héritées des États-Unis.
Oui, ce sont les politiques qui ont été appliquées à partir du début des années 80. C'est Ronald Reagan, Margaret Thatcher qui les ont impulsées en Europe. Ce sont un peu des politiques d'arrière-garde, même si aujourd'hui, il y a une lutte très grande. Dans cet article, si vous voulez, les États-Unis, le pire système social qui soit dans les pays occidentaux, les pays riches, forment le miroir dans lequel se sont regardées les élites européennes ces 30 dernières années. Et c'est quoi ce miroir? C'est un système de prédation et c'est un système pervers.
D'où le titre de votre article, « Salariés acrobates pour travail sans filet ».
Donc c'est un système de prédation. Pourquoi ? C'est un système qui organise une redistribution des richesses du bas vers le haut. Et ça a des conséquences du point de vue des droits. Des droits dans l'emploi, des droits hors de l'emploi, des droits d'accès à l'hôpital, enfin à la santé, etc., droits sociaux en général. Tous ces droits, vous le savez bien, on le sait, on le crie depuis des années, se fragilisent. Aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les personnes vulnérables, les pauvres, qui sont touchés. De plus en plus, une fraction de plus en plus grande de la société est touchée. Et vous savez, ce que montre bien l'exemple américain, c'est que vous ne vous rendez compte de la fragilité de vos droits qu'à partir du moment où vous essayez d'y accéder. Et lorsque vous croyez avoir des droits et que vous vous apercevez qu'en fait vos droits sont très fragiles et que vous ne pouvez pas accéder à ces droits qui vous paraissaient évidents pour tous, c'est à ce moment-là que les choses commencent à se gâter, et je pense que les choses se gâtent aujourd'hui. Le problème là, c'est que, si vous voulez, cette prédation, cette grande extorsion, pour reprendre le titre du livre de Stephen Greenhouse, cette grande extorsion, cette redistribution des richesses du bas vers le haut, et seulement vers le haut, le sommet, hein, et rompt les équilibres sociaux, rompt les équilibres sociaux essentiels, et c'est très grave parce que les valeurs fondamentales de ce qu'on appelle le pacte social-démocratique sont mises en question. C'est ce que je dis depuis toujours dans mon dernier livre, La machine à exclure, c'était ça aussi. Voilà, alors ce que je disais, c'est que donc le système est prédateur, mais le système est pervers. Et il est pervers, pourquoi ? Parce que la fragilisation des droits sociaux, tous les droits sociaux au sens large, expose bien entendu les individus à des risques sociaux de plus en plus nombreux, auxquels ils sont incapables de faire face, et pourtant, donc on transfère ces risques sociaux sur les individus, mais on les rend responsables. On les rend responsables de leur situation.
On les rend pas responsables, on les encourage à prendre l'initiative, à aller de l'avant. Il y a un mot anglais que vous citez qui est très joli, empowerment, qui est intraduisible et qui dit prendre en main son destin pour être actif.
Oui, c'est justement. Mais cette responsabilité, elle est la conséquence de ce que Satoshi Kamata appelle l'irresponsabilité impériale. C'est-à-dire que l'ordre qu'on vous donne, ce qu'on vous dit de faire et la responsabilité qu'on vous demande de prendre, l'ordre vient toujours d'en haut. Elle vient d'en haut, c'est le contremaître qui dit que c'est au-dessus de lui, le manager intermédiaire, c'est son supérieur, etc. Et en fait, toute la souffrance que ça implique dans le travail et hors le travail, elle est niée. Parce que la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous identifier totalement à un système de profit, à un système dit de compétitivité, qui, comme le disait tout à l'heure Anne-Cécile, c'est un système qui est inscrit dans les institutions, duquel il sera très difficile de sortir. Mais moi, je pense que c'est très important. Tous les mouvements sociaux qui sont en train aujourd'hui de se développer sont très importants et qu'on peut s'en sortir.
The day the Geechee is gone, boy. And you going with it.
Yeah, nigga. The bling bling era was cute, but it's about to be done. I leave you full of clips like the moon blocking the sun. My metaphors are dirty like herpes, but harder to catch. Like an escape tunnel in prison, I started from scratch. And now these parasites want a percent of my ass cap. Trying to control perspective like an acid flashback. But here's a quotable for every single record exec. Get your fucking hands out my pocket, nigga, like Malcolm X. I was made by revolution to speak to the masses. Deep in the club, toast the truth. Reach for your glasses, I'll burn an orphanage.
rage just to bring heat to you bastards. Innocent deep in the casket, Colombian fashion, intoxicated off the flow like Thug's passion. You motherfuckers will never get me to stop blasting. You better off asking Ariel Sharon for compassion. You better off begging for 20 points from a label. You better off battling cancer under telephone cables. Technique chemically unstable, set to explode, foretold by the Dead Sea Scrolls written in code. So if your message ain't shit, fuck the records you sold. Cause if you go platinum, it's got nothing to do with luck. It just means that a million people are stupid as fuck, stuck in the underground, a general that rose to the limit without distribution, managers, a dealer, a gimmick. Revolutionary Volume 2, murder the critics and leave your fucking body rotten for the roaches and crickets. This is the business and y'all ain't getting nothing for free. And if you devils play broke, then I'm taking your company. You could call it reparations or restitution. Lock and load, nigga. Industrial revolution.
Maurice Lemoine, je vous retrouve dans ce numéro du Monde Diplomatique avec un article de Philippe Lemery, et vous avez fait un encadré qui vont dans le même sens, c'est-à-dire des nouvelles guerres qu'on nous prépare. Or, les nouvelles guerres, c'est plus comme d'antan avec tous les canons d'un côté et tous les canons de l'autre, et on se retrouve au milieu du champ de bataille. Le champ de bataille, c'est dans la ville, des centres urbains, et c'est là où sont les gens, d'où des nouvelles règles, d'où des nouveaux comportements, d'où des nouvelles armes.
Oui, tout le mérite de cette enquête, en fait, revient à Philippe Lemery, hein, qui a travaillé sur ce thème du combat urbain. Quand on regarde le panorama militaire, on se rend compte qu'il y a une multiplication en France, mais pas uniquement en France d'ailleurs, d'exercices militaires en zone urbaine. Alors on a retrouvé le premier régiment de tirailleurs d'Épinal en Allemagne, sur un ancien camp ayant appartenu plutôt à l'Est, à l'Union soviétique. On a vu, il n'y a pas très longtemps, 800 militaires et 200 blindés dans les rues de Sedan. Quelques temps après, on a retrouvé 1400 hommes à Fréjus. Bon. Et en fait, évidemment, ça correspond à une redéfinition du rôle du militaire dans le combat et dans le combat moderne. Et il se trouve que dans le conflit asymétrique, puisqu'on assiste de moins en moins à des grands conflits armés contre armés, état contre état, pays contre pays, avec des batailles de Stalingrad, avec des alignées de chars qui déboulent sur les Ardennes ou choses comme ça. Dans le conflit asymétrique, la stratégie du faible l'amène souvent à porter le combat dans les villes. Hein. Pourquoi ? C'est parce que la bataille urbaine, lui permet de rétablir l'équilibre face à des armées extrêmement modernes, extrêmement sophistiquées, telles que celles que l'on connaît actuellement dans les grands pays développés. Alors, cette bataille urbaine, pour le faible, on peut mettre des guillemets à faible d'ailleurs, parce que le faible n'est pas forcément bon, et le bon n'est pas forcément faible, enfin bref, on pourrait débattre.
Le faible, en l'occurrence, c'est celui qui a le moins d'avions et le moins de porte-avions.
Il a évidemment, lorsqu'il est en ville, un avantage certain par rapport à un combat traditionnel. Ça se passe d'abord dans un décor avec des immeubles, avec des bâtiments, avec une visibilité réduite face à l'adversaire. Ça se passe au milieu d'une population civile dans laquelle il peut y avoir des combattants habillés précisément en civil qui font semblant d'aller à la boulangerie mais qui en réalité sont des combattants. Et puis il y a surtout, parce que tous les militaires ne sont pas des assassins, ils se trouvent confrontés à un dilemme, le militaire de l'armée moderne. C'est-à-dire que, soit pour éviter les dommages collatéraux, il évite d'employer toute sa force, c'est-à-dire l'aviation, c'est-à-dire l'artillerie, pour ne pas avoir un massacre de population. Ça se passe pas toujours dans ces cas-là, on l'a vu à Gaza récemment. Mais en tout cas, c'est un problème qui se pose, un dilemme moral. Soit il prend en compte ses possibles dommages collatéraux, il réduit sa force et de ce fait, il augmente ses propres pertes. Deuxième élément du problème, c'est que dans ce type de conflit, malgré l'éloignement général de la presse, on l'a vu là aussi à Gaza, où on a essayé de... Enfin, on n'a pas essayé, on a réussi à écarter la presse. Il se trouve toujours maintenant, compte tenu de la multiplication des chaînes et des moyens de communication, et Al Jazeera était présente à Gaza, des images qui sortent. Et évidemment, ça rend difficile l'occultation des faits à l'opinion publique, qui est susceptible de se retourner contre ses dirigeants. Hein. Je veux dire, le choc de l'image, le choc émotionnel de l'image fait qu'à un moment, la population se retourne. On l'a vu en particulier avec les Américains à Mogadiscio, où, je ne sais plus, je crois que c'est une dizaine ou une douzaine de leurs soldats ont été tués, maltraités. C'est sorti sur les télévisions américaines et très rapidement ensuite, le président Clinton a été obligé à retirer les troupes de ce pays. Donc, les militaires dont d'une certaine manière, c'est la fonction, doivent s'adapter à ce type de combat. Après, évidemment, ça pose une question qui n'est plus une question de stratégie militaire, mais une question politique, c'est que les militaires vont là où on leur dit d'aller. Et donc, ça oblige à se poser la question de, très bien, que nos militaires s'entraînent au combat urbain, pourquoi pas, hein, mais où va-t-on les envoyer et pourquoi faire? Alors, le ministre de la Défense, par exemple, Hervé Morin, a dit il n'y a pas très longtemps, le 28 janvier pour être précis, que le nombre de soldats français engagés dans ce qu'on appelle les OPEX, opérations extérieures, devrait passer de 13 000 à 10 000 hommes. Hein. Mais ça, c'est des annonces qu'on fait régulièrement, et il se trouve que concomitance des faits, au moment où on va réintégrer l'OTAN, l'OTAN est de plus en plus demandeuse d'hommes en Afghanistan. Hein. Donc, le discours sur on va réduire les opérations extérieures n'est pas forcément en adéquation avec la réalité. Et puis, il y a le problème, peut-être le problème principal, c'est que vous savez qu'on a publié récemment le livre blanc de la Défense, et que dans ce livre blanc, dans la préface, le président Nicolas Sarkozy a écrit, et je cite, « Le clivage traditionnel entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure s'est encore davantage effacé. » Et là, évidemment, ça amène à se poser la question. Est-ce que, par hasard, sans tomber dans la paranoïa ni les procès d'intention d'ailleurs, mais est-ce que par hasard, on n'aurait pas dans l'idée qu'éventuellement, si un jour il y avait, pourquoi pas, des troubles dans les banlieues, ça n'arrivera pas en France, mais sait-on jamais, on pourrait utiliser l'armée pour venir au secours de la police, ou même simplement remplacer la police.
Vous le dites comme ça a été fait pendant les émeutes de Los Angeles.
En avril 92 à Los Angeles, hein, rappelez-vous, c'était le moment où Rodney King, un automobiliste noir, a été matraqué par des policiers de Los Angeles, où il y a eu des émeutes extrêmement violentes d'ailleurs, hein, qui ont fait des victimes, et où l'armée est intervenue. Ça a été une intervention importante puisque les plusieurs jours d'émeutes, ont provoqué le déploiement de plus de 10 000 hommes de la garde nationale, un bataillon de Marines et 2000 soldats du 7e division d'infanterie. Donc la question demeure posée.
Sans faire de parano, vous le dites, ces entraînements à la guerre urbaine peuvent servir aussi sur les théâtres nationaux, voilà. C'est ça?
Et là, d'une certaine manière, c'est pas les militaires qu'on interpelle, mais c'est les politiques.
Quand on cherche, on trouve, c'est le titre de votre article, Laurent Bonelli, dans ce numéro du mois de mars du Monde Diplomatique, au sujet, bien sûr, de la mobilisation intense qui, depuis des semaines, s'active dans les universités, dans tout l'enseignement et de la recherche français, suite à l'agitation de Valérie Pécresse, qui apparemment aussi commence à avoir du plomb dans l'aile, non, si j'ai bien compris.
Non, oui et non, effectivement. Ce qui est surprenant, c'est effectivement une mobilisation, je dirais, sans précédent du monde de l'enseignement et de la recherche, non pas des étudiants. Les mobilisations étudiantes, je dirais, il y en a souvent, c'est plutôt fréquent. Mais là, on a plus de 6 semaines de grève dans les universités. La plupart des universités sont effectivement en grève, sont en mouvement. La plupart des laboratoires du CNRS également. Je dirais, on a effectivement un mouvement qui frappe, je dirais, par son ampleur à ce niveau-là, même s'il n'a pas une traduction, je dirais, massive dans la rue, puisque les enseignants-chercheurs sont à peu près 60 000 et au CNRS, c'est à peu près 12 000 personnes. Bon. Mais en proportion, c'est absolument colossal. Alors, je dirais, c'est un mouvement qui cumule, je dirais, des mécontentements. Alors, des mécontentements
gouvernement très récent. Il y a des mesures très récentes, la réforme du statut des enseignants-chercheurs, le démantèlement du CNRS, le démantèlement des instituts de formation universitaire des maîtres. Bon, ça, c'est des choses très récentes. Et des doléances plus anciennes, avec notamment tout le processus d'autonomisation des universités, qui est déjà passé en 2007. On a saisi l'occasion d'une autonomisation. On dit, bah, finalement, on va casser genre, ce grand machin qui est
pyramidal,
etc. Et on va donner de l'autonomie aux universités, par exemple.
Presque 68 heures comme slogan.
Presque 68 heures. Et d'ailleurs, les présidents d'universités étaient ravis de cette question-là, en disant, bah, c'est très bien, c'est nous, nous allons être nos petits patrons, et c'est pas mal. Sauf que c'est très intéressant de voir qu'un an après, on a à peu près tous les présidents d'universités qui sont contre. Et alors, on se dit, bah, tiens, ces gens-là sont un peu versatiles. Et en fait, pas du tout. Ils sont assez peu versatiles, il faut bien le dire. Et je vois, par exemple, à Nanterre, où j'enseigne, c'est quel est le type de dilemme sur lequel se retrouve un président d'université. Bah, il était pour l'autonomie et puis finalement il reçoit son budget quadriennal, c'est-à-dire bah, il s'aperçoit que déjà le budget on lui a menti, on lui a donné 20% de moins et ça donne des dilemmes suivants: ouvrir un IUT dans les 4 ans qui viennent avec 20 enseignants, 20 postes de moins. Bon, ça je dirais c'est le fond. Mais plus loin que cette question des budgets, je crois que on assiste à une transformation des visions et des logiques du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est alors même que ces problèmes sont existés, c'est-à-dire dire bah oui, il y a une démocratisation imparfaite, comment peut-on faire en sorte que cette démocratisation soit meilleure? On dit ben non, la démocratisation c'est une mauvaise idée. Et le modèle que l'on propose, et c'est le modèle qui sous-tend l'ensemble des réformes actuelles, c'est de dire on va faire un double système. Un système qui, d'un côté, va développer des pôles d'élite. Alors, des pôles d'élite, c'est quoi? Ce sont des pôles qui vont concentrer les meilleurs enseignants, les meilleurs chercheurs, sur le modèle de ce qu'on peut voir aux États-Unis, où une dizaine d'universités d'élite, je dirais, cumulent ses propriétés, alors que l'immense majorité des autres universités sont des universités de qualité moindre, etc. Bon. Donc on veut en France concentrer un certain nombre d'universités qui seront présentes sur le marché international.
Avoir notre MIT, notre Oxford.
Exactement, c'est-à-dire capable d'attirer les meilleurs chercheurs du CNRS qui seront versés dans l'université, capable d'attirer les meilleurs chercheurs étrangers par des politiques notamment de salaires attractifs. Et alors des universités qui seront financées. Comment, vous me direz-vous? Elles ne seront plus financées par l'État, elles seront financées alors faiblement par l'État, elles seront financées essentiellement par les donations, c'est-à-dire privées, et graduellement par une augmentation colossale des droits d'inscription qui permettront d'attirer les bourgeois de la bourgeoisie nationale et aussi les bourgeoisies des pays émergents.
C'est ce que vous appelez la sélection darwinienne de l'université?
Alors c'est une sélection darwinienne au sens où on aura d'un côté des pôles d'élite et de l'autre côté l'immense majorité des universités, notamment de provinces, des filières non rentables, qui vont devenir des espèces de garderies post-lycée, des endroits où, en termes d'enseignement, ça sera essayer de, grosso modo, de devancer ce qu'on appelle les besoins du marché du travail. Alors, on pourrait rajouter les besoins toujours fluctuants et souvent contradictoires du marché du travail, c'est sans doute ça, pour gérer, je dirais, l'immense majorité, finalement, des étudiants qui seront exclus de ce processus de sélection darwinienne. Alors, je pense que, vous voyez, on a vraiment une transformation de logique, de fond, c'est-à-dire sur ce qu'on veut faire de l'enseignement supérieur de la recherche. Et je crois que ce qui se joue aujourd'hui, c'est fondamentalement, il y a quand même derrière ça un enjeu de société assez important. L'idée que on doit défendre un monde dans lequel la recherche est autonome. C'est-à-dire la recherche est autonome, ça veut dire est capable de formuler des problématiques qui ne sont pas des problématiques fonctionnelles pour des entreprises ou pour un gouvernement.
Pas répondre nécessairement aux besoins des industriels, mais faire de la recherche fondamentale aussi, qui un jour apporteront d'autres applications.
Exactement, mais tout autant en sciences sociales, par exemple, qui sont mes domaines, c'est tout simplement le ministère de l'Intérieur est très intéressé par les violences urbaines. Genre, on peut commencer, pour un chercheur, non pas à s'intéresser sur ce que sont les violences urbaines, mais travailler sur les processus de déstructuration des milieux populaires qui conduisent parfois à des questions de violence collective. Donc voilà, c'est-à-dire poser nous-mêmes sur la recherche, doit poser ses propres questionnements. Sinon, je dirais, elle n'avance pas. Bon, ça, c'est le premier point. Mais aussi, je dirais, en matière d'enseignement supérieur, l'une des vocations de l'enseignement supérieur, ça peut être aussi de donner à un certain nombre d'étudiants une distance critique à leur destin social. C'est-à-dire, tout simplement, de mettre en question de l'ordre social tel qu'il est. Et ça, face à ça, la seule alternative qui est à ça, c'est au contraire de fabriquer des petits soldats de l'ordre social tel qu'il est. Et je crois que, fondamentalement, derrière, finalement, tout ce qui est en train de se jouer dans l'éducation, et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, Pécresse
semble reculer, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que les décrets, d'ailleurs, les mobilisations sont maintenues, les facs continuent en grève. Il y a encore une manifestation demain, donc mercredi 11. Je crois que là-dessus, finalement, c'est ce débat de société qui est en jeu, qui est en filigrane, et qui recoupe, et c'est très intéressant, à la fois, ce que disait Anne-Cécile tout à l'heure, ce que disait Noël auparavant, c'est-à-dire, c'est un modèle de société, qui est en jeu.
Merci à tous, à toute l'équipe du Monde Diplomatique. C'était un entretien réalisé par Guy Vanctil. Merci à Serge Halimi, Maurice Lemoine, Anne, Cécile Robert, Laurent Bonelli du Diplo. Merci également à Noël Burgi et Jacques Sapir. Et puis, suite au reportage sur les entonnoirs, avec un Z au début, avec les étudiants de l'École supérieure de journalisme de Lille, dans le numéro de La Baffe et des Petits, qui a été diffusé vendredi, nous remercions toute l'équipe de l'association Autre Monde. Alban, Julien, Debs, Sophie, Florent, Tim et David. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Là aussi, vos commentaires sont bienvenus. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Jean-Philippe Jeanne, Coyen Nguyen et Raphaël Moutière ont réalisé cette émission. Charlotte Perry nous assiste et Agnès Le Bot attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.